Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 53. Le journalisme, le point, diapason.
André Tuboeuf, là, nous avons éclairé votre passage dans les cabinets ministériels et la fréquentation un peu plus assidue qu'elle ne l'avait été dans vos années purement strasbourgeoises des milieux musicaux. Mais c'est aussi à ce moment-là que vous acceptez de rentrer comme journaliste musical au point. Il me semble qu'on vous avait proposé d'être au point et rien qu'au point. Mais vous avez décidé d'y entrer plutôt comme pigiste, sauf erreur.
Oui, enfin, c'est une fois que j'ai pu me montrer satisfaisant comme pigiste, et au bout d'un certain temps, qu'on m'a proposé d'y être permanent. Ça ne s'est pas fait, ma réputation n'était pas assez établie pour que ça se fasse de but en blanc. Mm-hmm. Le fait est, mon véritable début dans le journalisme, ça a été dans Harmonie, la revue concurrente de Diapason qu'avait fondée Edith Walter. Et c'est Michel Garcin, qui était le directeur d'Erato et qui faisait beaucoup de disques à Strasbourg avec Alain Lombard, qui avait signalé la présence de quelqu'un d'intéressant à Strasbourg, à Edith Walter, qui, en ce moment supposé du boom de la musique et de la multiplication des journaux musicaux qui vont commencer à se créer, ils avaient grand besoin de rédacteurs qui sachent un petit peu quelque chose et qui aient autre chose que leur bonne volonté et leurs bonnes intentions. D'où j'entre à Harmonie, où j'ai fait beaucoup de disques. J'ai pas fait seulement beaucoup de disques, j'ai fait aussi beaucoup de choses un petit peu plus développées. Je veux dire, j'avais une idée sur ce que c'est que les sonates de Schubert. Il faut bien dire qu'à l'époque, on n'était pas tellement nombreux, je veux dire, en 76 ou quelque chose comme ça, on n'était pas tellement nombreux en France, ni au monde entier d'ailleurs, à avoir une idée, enfin, de la quantité, enfin, je dirais, du genre de monde qui pouvait s'ouvrir pour nous avec les sonates de Schubert. Et j'ai par exemple proposé à Harmonie une sorte de discographie comparée des sonates de Schubert telles qu'elles existaient à l'époque au disque, à l'époque, c'est-à-dire dans l'avant Brendel. Et bien entendu, c'était pour une chose extrêmement nouvelle que quelqu'un soit capable d'abord de faire une discographie comparée et de la faire, enfin, dans le sens de cette dimension-là. De même, j'ai fait à ce moment-là quelque chose sur une sorte de récapitulation du lead. Ce que c'est, ce que ça veut dire, qui il y a dedans, les auteurs, les interprètes, et là encore, qu'est-ce que le disque nous apprend là-dessus, bien entendu. C'est des choses qui ont marqué tout de suite dans le milieu du lectorat musical, parce qu'on leur a apporté là une ressource, et une ressource de première main, donnée par quelqu'un qui ne se contentait pas d'aligner des titres, mais qui avait entendu les choses dont il parlait, et qui en parlait comme de quelqu'un qui les a entendues, et qui dit au lecteur, voilà, vous pouvez entendre ça, et ça, ça peut attendre le mois prochain. Alors, sans doute, le Point était tout à fait à la recherche de quelqu'un pour la musique. Le Point avait été fondé quelques années plus tôt, et ils avaient commencé avec le vieux Marcel Schneider, enfin, qui remontait quand même un peu à Mathusalem, et qu'ils ont remercié à un moment donné. Je regrette d'avoir dû prendre la place de quelqu'un, mais enfin Dieu sait que je n'y suis absolument pour rien. Un beau jour, j'ai reçu une lettre simplement de Pierre Billard, qui était le rédacteur en chef pour la culture, qui me disait, voilà, nous suivons avec attention ce que vous écrivez dans Harmonie et dans Lyrica. Voilà, vous nous intéressez, voulez-vous venir nous voir? Bon, alors la chose incroyable, c'est que, en vérité, Pierre Billard, Claude Imbert, qui était le fondateur du Point, il y avait 10 personnes là-dedans, qu'en principe j'aurais dû connaître depuis 20 ans. Je veux dire, j'ai quand même été étudiant à Paris, et on s'est entrecroisés sans se connaître, mais enfin, je me suis trouvé moi-même extrêmement à l'aise dans la rédaction du Point, et en précisant que je vivais toujours à Strasbourg, que je ne pouvais pas leur donner plus de temps que éventuellement deux jours par semaine à Paris pour observer les choses, et que la condition pour que je vienne était qu'on ne me demande pas de voyager, parce que je savais que non seulement les journalistes obéissent, enfin, et font ce que leur demande, mais je savais même que sur ce point, l'opéra, les concerts, ils étaient plutôt demandeurs et auraient plutôt envie de se faire amener à Shiraz voir le couronnement du chat et les fêtes musicales qui vont avec, et suivre Xenakis jusqu'à Shiraz pour se faire payer le voyage, enfin, les choses semblables. Et moi, de mon côté, je ne le voulais pas, parce que j'avais toujours mon métier à Strasbourg, et c'est uniquement des années plus tard, et notamment lorsque, avec le Point, et profitant effectivement de ce boom, nous avons fondé notre propre magazine musical qui s'appelait Musique, qui d'abord devait s'appeler Musique tout court, et ensuite, par une espèce de consensus de la rédaction, s'est appelé Musique avec un S, ce que je désapprouvais pour ma part, du fond du cœur, parce que j'y voyais déjà la porte ouverte à autre chose que nous ne gérerions probablement pas dans le même sens. Mais enfin, nous avions une toute petite équipe à Musique, puisque c'est Denis Jambard qui s'occupait de Nation au Point, et à qui avait été donnée la charge de Musique, ce qu'il a fait admirablement et avec un enthousiasme absolument extraordinaire. Et je dois beaucoup à Denis, parce que j'étais, comme je crois l'avoir déjà dit, quelqu'un de très difficile, et je faisais des papiers de 100 lignes et demie ou de 99 lignes et demie quand on m'en demandait 100, et que c'était très difficile de faire avec. Mais dans Musique, j'ai eu à faire des choses qui étaient davantage du reportage. Aller voir effectivement des artistes, on était 2 ans ou 3 ans après mon arrivée au Point, donc déjà mon corset à moi s'était déjà un petit peu desserré, et j'avais commencé à accepter d'une manière raisonnable tel voyage qui servait effectivement à quelque chose. Et j'avais fait pour Musique un certain nombre de voyages, et l'obligation, enfin je revois Denis m'enfermant simplement dans son bureau et en me disant: André, vous allez, je viens vous ouvrir dans 2 heures, et dans 2 heures vous aurez fini, parce que j'étais dans mes scrupules, et dans cette espèce de blocage qui très réellement a été le mien pendant très longtemps, un blocage qui veut dire: je sais parler mais je ne sais pas écrire. Je sais très bien vous raconter, je vous raconte tout ce que vous voulez, et ça va être très bien, mais je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où continuer, je ne sais pas maîtriser cette forme qui n'est pas une forme improvisée. L'acte de Denis m'enfermant pour que vraiment je finisse dans le temps qu'il m'imposait, simplement parce que là, les délais étaient là. Et je lui en étais évidemment toujours reconnaissant, à la fois de cette marque de confiance et de cette sorte de brutalité me mettant au pied du mur. Bien, au point j'ai eu à faire des choses merveilleuses, parce que j'y suis quand même maintenant depuis, j'y suis entré en 76, nous sommes en 11, ça fait donc 35 ans plein que j'y suis. On y fait désormais très peu de choses en Musique, et il y a eu plus d'un moment où on a fait très peu de choses, simplement parce que le Point était le moins soutenu et le dernier venu des magazines, le moins riche. Celui qui, à la différence des deux autres, n'abritait pas, enfin, une équipe, et n'avait pas à nourrir une équipe vraiment nombreuse. Nous étions un peu plus chevaux légers, Et il y a eu des formules allégées du point au moment où les, non pas les subventions, mais les ressources procédant de la publicité ont déserté la presse écrite pour aller vers la radio et la télévision. Les magazines ont pris un très sérieux et très méchant coup de barre. Et il y a eu vraiment des années où le point était réduit à sa plus simple expression et n'a tenu le coup en vérité que parce que il y avait une volonté très ferme de fonctionner dans cette espèce de pauvreté et d'aller au bout jusqu'à ce que la crise soit traversée. Bien, moi j'ai... De toute façon, je n'étais que pigiste, je n'étais que permanent, on pouvait me remercier du jour au lendemain. Il faut croire que j'avais réussi en assez peu de temps à montrer en tout cas que je ne veux pas dire que j'étais le meilleur, mais que j'étais le seul à prendre au sérieux ce que je pouvais faire dans un magazine, ce qu'on pouvait faire, je veux dire, à être plutôt demandeur et inspirateur, à expliquer à la rédaction... il y a ça qui va être intéressant, ce qui fait qu'on m'a donné à faire des documents qui étaient intéressants. J'ai fait des documents sur Mouti, sur Scholti, sur Arau, sur Schwarzkopf, sur Karajan. J'ai fait des choses sur Karajan qu'on a bien voulu trouver plutôt bien, parce que c'était une mise en perspective de la carrière. Je veux dire que bien entendu, j'agissais là plutôt en romancier et en auteur qu'en journaliste. Et je vais même le dire autrement, j'agissais comme quelqu'un qui se met à la hauteur du sujet qu'il traite et qui ne regarde pas Karajan d'en bas. Karajan, pour moi, c'est quelqu'un que j'aurais pu à la rigueur avoir à ma table, ou sans en avoir de complexe, ou être à la sienne sans me considérer comme quelqu'un à qui on fait de l'honneur en le mettant à la table d'un grand tycoon. Je veux dire, je pouvais le regarder dans les yeux. Je savais qu'intellectuellement, je suis au moins aussi fort que lui. Bon, et que je peux le traiter comme le personnage historique qu'il est déjà, et que c'était honorable pour lui, que c'était honorable pour moi. Et évidemment, ce ne sont pas des façons que peuvent se permettre les journalistes musicaux, avec le background qu'ils ont habituellement. Je veux dire, les journalistes musicaux, c'est des gens qui demandent à des attachés de presse ou à des impresarios le droit d'avoir accès. Alors éventuellement, on leur paye un voyage, ce qui est très confortable pour qu'ils aillent voir le bonhomme. Ils passent une heure avec, ils font un papier, et ils font un papier en consultant les archives qu'il y a dans leurs journaux. Bon, moi, l'atout que j'avais, c'est que si j'avais à faire, comme pour musique par exemple, un papier sur Rubinstein, Rubinstein est quelqu'un que j'ai eu à déjeuner chez moi à Strasbourg. Le rapport n'est pas le même, la conversation n'est pas le même, le regard sur le personnage n'est évidemment pas le même. Il y a donc une façon de le traiter qui est beaucoup plus libre, sans compter le fait que je pouvais faire une chose qu'évidemment, il y a eu un moment, je ne sais plus pour quelle raison, je pense bien un feuilleton. Il y a eu un feuilleton télévisé sur Mozart dans lequel un certain petit Carole Beffa, qui n'était pas encore connu comme tel, jouait le petit Mozart. Et le point s'est excité là-dessus à ce moment-là. On a dû faire une sorte d'ensemble sur Mozart. Et je leur ai dit, mais si vous voulez, je peux avoir le point de vue de Rubinstein sur Mozart et le point de vue de Schwarzkopf sur Mozart. Ils ont sauté au plafond, je veux dire, parce que l'idée qu'on puisse décrocher son téléphone, appeler Rubinstein et lui dire « Arthur, soyez gentil, dites-moi quelle est votre façon à vous d'aimer Mozart et je vais le mettre dans le point ». J'ai la même chose pour Elisabeth. Ça n'est... Voilà. Je leur apportais d'une certaine manière quelque chose que personne d'autre n'apportait. C'est la raison pour laquelle, en un sens, ils m'ont aussi traité. Je ne leur ai jamais demandé d'argent, ils n'ont jamais fait ma fortune, mais enfin, ils m'ont laissé faire les choses que j'estimais être bonnes pour le journal, même si ça n'était pas dans l'actualité immédiate. Je ne me suis pas du tout à cet égard comporté comme un simple pigiste ou comme une roue de secours simplement pour la musique. ça aboutit, j'ai parlé de Mozart à l'instant, mais ça aboutit à quelque chose qui, bien évidemment, je crois on peut le dire, est resté unique dans la presse écrite française et même dans la presse mondiale. En 1791, pour le bicentenaire de Mozart, on a fait un numéro spécial du Point avec Mozart en couverture, ce qui paraissait inconcevable pour qui que ce soit, en musique, même Karajan, qui dans l'actualité est beaucoup plus haut que Mozart. Mmh. Bon. Et sur Mozart, un numéro spécial, ça voulait dire que dans le magazine, il y avait 30 pages sur un magazine qui à l'époque en comportait peut-être 70 ou 80 et qui était vraiment à son plus mince. Il y avait 30 pages ou 35 pages qui étaient de moi, avec, je pense, 10 rubriques de chacune, une double page, avec les illustrations que nous avions choisies en accord avec le maquettiste. Et pour expliquer, voilà, l'amour chez Mozart, la famille chez Mozart, le chant chez Mozart, enfin, je ne me rappelle pas quelles étaient les rubriques, mais enfin, ce qui était une entreprise simplement insensée. Et je dois dire qu'on a eu le nez creux parce que je les avais suppliés, puisqu'on l'a fait et que nous sommes prêts, publions ça dès novembre parce que les autres vont s'y mettre et vont casser la qualité de notre projet. Ils vont faire des couvertures avec rien dessous et ça va casser le fait que nous avons une couverture avec quelque chose dessous. Et le nez creux a effectivement fonctionné puisque le numéro Mozart est parti et a été publié la semaine même où a commencé la guerre du Golfe. Qui, bien entendu, sur les quelques mois qui ont suivi, ont supprimé toutes les possibilités de mettre un événement musical vieux de deux siècles en couverture d'un magazine news. Voilà.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.